Salut, c'est Cédric de Nancy. Au JT de 8h, j'entends à la fois parler des missions de la Coupe à Glasgow et à la fois d'un grand prix de moto dont tout le monde est très content parce que la France a gagné. Cocorico, bah, y a du boulot à faire parce que si on fait le lien entre les deux, on n'est pas arrivé. Bon courage à vous tous, les terriens.
Bonjour, c'est Alain à Thônes. Donc, j'appelle concernant les forêts dans les Vosges et en Haute-Savoie parce qu'on a le même problème. Ce sont un problème de scolie. J'ai appris qu'il y avait des coupes rases qui s'effectuaient. Et il ne faut pas hésiter en tant que particulier à appeler notre mairie dès qu'on voit ça parce que souvent, ils ne sont pas au courant. Merci.
Bonjour Mathieu, bonjour Camille. C'est Morgane de Villard-de-Lans. Je n'en peux plus d'entendre dans les émissions économiques et dans le journal, les journaux de la chaîne de radio que j'aime, qu'on se réjouisse de la croissance économique, de la reprise économique. Alors qu'à côté de ça, vous, avec Camille, vous vous battez pour nous faire prendre conscience des changements nécessaires sur nos comportements. Allez, continuez. Bon courage à vous. Au revoir.
Bonjour, Gilles de Bourbu, dans le massif de l'Aigoual. J'appelle parce que je fais beaucoup de vélo et je constate actuellement qu'il y a beaucoup de batraciens qui sont écrasés, des crapauds, des salamandres en l'occurrence. Si les gens pouvaient lever un peu le pied, ça serait pas plus mal, quoi. Merci, au revoir.
Bonjour, c'est Daniel d'Arkang dans les Pyrénées-Atlantiques. Je voudrais dire que la construction d'une LGV va entraîner une artificialisation des sols et une destruction de milieux naturels, aquatiques ou non. Et c'est pour cela que nous refusons cette LGV. Nous avons une ligne de train qu'il faudrait améliorer. Mais nous ne voulons pas détruire le pays magnifique dans lequel nous vivons et où tentent de vivre des espèces sauvages. Notamment le Vison d'Europe a été déjà délogé pour construire un centre commercial à Metsondo. Je vous remercie beaucoup pour votre émission. À bientôt.
Bonjour Mathieu, c'est Ludovic de Dieppe, en Seine-Maritime. Alors voilà, moi je voulais mettre un petit message concernant un sujet qui est revenu plusieurs fois sur le répondeur, c'est la chasse. Et je voudrais apporter un message peut-être nouveau. En tout cas, j'ai jamais entendu, parce que je suis chasseur, mais je suis écœuré par la politique de la fédération que je trouve complètement conservatrice. Et je voulais dire qu'il existe, il y en a peut-être pas beaucoup, mais il existe des chasseurs qu'on pourrait qualifier de progressistes, qui ne tuent que ce qu'ils mangent, qui sont prêts à faire des concessions sur un jour de chasse, qui sont prêts évidemment à évoluer sur certaines méthodes de chasse que je trouve pas tout à fait normales, etc. Je voulais apporter cet éclairage parce qu'il n'existe pas que des chasseurs qui sont obtus et vraiment conservateurs. Voilà, bonjour à toute l'équipe et à bientôt.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
On les compte au nombre de 5, de 6 ou de 7, avec une histoire qui évolue au fil des découvertes scientifiques. Ce sont les continents dont nous allons vous raconter l'histoire cet après-midi. Il s'agit, vous verrez, d'une histoire très ancienne, caractéristique de notre planète et qui recèle encore pas mal de mystères. Récemment, une publication sortie dans la revue Science Advances nous apprenait que la formation des continents n'était pas un processus continu, mais au contraire, une suite d'événements ponctuels qui se sont déroulés depuis le début de l'histoire de la Terre. Une information qui remet en cause certains modèles sur le début de la tectonique des plaques et qui permet de mieux comprendre donc l'évolution des continents au cours du temps. C'est cette nouvelle histoire au cœur du dossier de la Terre au carré cet après-midi que vont nous livrer nos invités Marion Garçon et Manuel Pubelier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue, ravi de vous accueillir. Marion Garçon, vous êtes géochimiste chargée de recherche au CNRS au sein de ce laboratoire magma et volcan de Clermont-Ferrand. C'est vous qui êtes à l'origine de cette publication qui vient rebattre les cartes de la science des continents. Et puis Manuel Pubelier, vous êtes directeur de recherche au CNRS, en poste à l'École normale supérieure, et vous êtes président de la commission de la carte géologique du monde. Vous allez répondre bien sûr aux questions des auditrices et des auditeurs qui arrivent. Message sur la page de la Terre au carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter, où vous pouvez, je vous le rappelle, nous laisser vos notes vocales avec vos questions. 14h30, Camille passe au vert. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Et au programme aujourd'hui,
eh ben, je vais vous parler de toutes ces entreprises qui émergent pour tenter de dompter le CO2.
Voilà pour le sommaire de l'émission, réalisé par Valérie Ayestaraï, préparé par Anna Massardier, avec Michel Bézikian à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. sur France Inter.
Il y a 220 millions d'années, c'est beaucoup par rapport à l'homme, c'est très peu par rapport à l'histoire de la Terre. Eh bien, il y a 220 millions d'années, la plupart des continents étaient rassemblés en un supercontinent unique. C'était d'ailleurs un instant, c'était momentané à l'échelle géologique, ça a duré quelques dizaines de millions d'années probablement. Mais ils se trouvaient tous les uns emboîtés dans les autres, en une espèce d'énorme puzzle dans lequel l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, l'Inde et le continent antarctique se trouvaient rassemblés. Il y avait deux grandes masses continentales, celle du Sud qu'on appelait le Gondwana, et puis l'Eurasie au Nord avec l'Amérique du Nord. Et cela s'est fracturé il y a environ 200 millions d'années. Et en 200 millions d'années, on est arrivé à l'image que l'on a maintenant, mais progressivement. Et donc la face de la Terre a changé très rapidement en 220 millions d'années, du tout, 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 quand vous pensez que les rivages des environs de New York se trouvaient contre les rivages de l'Europe septentrionale il y a 200 millions d'années. Vous imaginez combien ça a bougé. Quand vous pensez que l'Inde était accolée à l'Afrique et à Madagascar et qu'elle est allée remonter vers le nord pendant ces 200 millions d'années pour rencontrer le sud de l'Asie et passer sous l'Asie, et l'Inde continue à avancer sous l'Asie, elle rabote la base de l'Asie, et chaque fois qu'elle bouge, ça fait un de ces tremblements de terre formidables qui sont habituels dans l'Asie centrale, et toute la surrection de l'énorme chaîne des Himalayas, Himalaya, Pamir, Tien Shan, Kuen-Lun, toutes ces grandes montagnes de l'Asie centrale, c'est dû au fait qu'il y a un continent qui passe dessous et qui le soulève. Vous voyez, alors la Terre change, et dans 10 millions d'années, la Terre sera encore très différente de ce que nous connaissons aujourd'hui.
Voilà, on pourrait l'écouter pendant des heures. Haroun Taziev, c'était en 75 dans Thalassa, qui nous racontait donc cette époque où New York embrassait l'Europe, finalement, pour nous emmener sur le chemin des continents avec nos invités Marion Garçon et Emmanuel Pubelier. Eh ben, expliquez-nous, tiens, Marion Garçon, de quoi vous occupez exactement au sein de votre laboratoire sur cette thématique des continents ?
Eh ben, en gros, on essaye de comprendre comment est-ce que les premiers continents se sont formés au début de l'histoire de la Terre et quelles étaient leurs compositions.
Ouais. Et on sait à quel moment ça a commencé, ou c'est encore justement un gros point d'interrogation ?
Voilà, c'est un gros point d'interrogation, je pense. Alors, on apporte de plus en plus des éléments de réponse, mais on n'a pas de réponse vraiment fixe à cette question.
C'est donc vous la première autrice de cette publication sortie en septembre et qui fait trembler le monde de la science des continents. On va en discuter dans un instant. Vous, Manuel Pubelier, qu'est-ce que vous faites alors exactement ?
Moi, je travaille sur les marges continentales, c'est-à-dire sur la limite entre les croûtes continentales et les croûtes océaniques.
Ouais. Et alors, de quoi s'occupe la Commission de la carte géologique du monde, c'est un très bel intitulé, hein. Vous pourriez presque être un personnage de Jules Verne avec ça.
Presque, oui. Ouais. Alors la Commission de la carte géologique du monde, c'est une très vieille ONG internationale qui a plus de 100 ans, 110 ans en fait, et qui dépend de l'UNESCO, du moins qui est une ONG habilitée à des financements de l'UNESCO, et qui regroupe tous les services géologiques du monde entier. Elle fabrique les cartes géologiques internationales.
Et qui s'en sert de ces cartes ?
Tous les géologues, elles permettent de, par exemple, les cartes très modernes permettent de rechercher des types de roches d'un certain âge, d'une certaine nature, et donc de faire des compilations telles que Marion effectue.
Donc, comme Marion Garçon, vous avez envie de vous balader dans le monde à la recherche de roches ou de sédiments très anciens. Vous allez voir d'abord ces cartes pour essayer de localiser le bon endroit ?
Voilà, c'est ce qu'on fait en fait. On regarde sur les cartes géologiques du monde où est-ce qu'on trouve les terrains les plus anciens ou les terrains des âges qui nous intéressent. Et ensuite, on va, par exemple, pour trouver les sédiments les plus vieux qu'on a aujourd'hui sur Terre, on va au Canada, en Afrique du Sud, en Australie.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment les hotspots des plus anciens sédiments, c'est ça ?
Voilà, oui. Ouais.
Et on est à quels âges exactement alors ?
Alors le plus vieux, c'est 3,8 milliards d'années. Et puis après, on a en Afrique du Sud, 3,5 milliards d'années, en Australie aussi. Groenland.
Comment on sait que ce sont les plus vieux ? Est-ce que ce sont les plus vieux que vous connaissez ? Ou est-ce que potentiellement, il peut y avoir encore plus vieux ?
Non, c'est les plus vieux qu'on connaît, donc on les date avec des outils géochimiques, des systèmes de radioactivité. Donc on peut connaître l'âge auquel ces sédiments se sont déposés, mais c'est les plus vieux qu'on a trouvés. Probablement qu'on en trouvera d'autres, soit du même âge, soit peut-être plus vieux. En tout cas, pour le moment, le plus vieux, c'est 3,8 milliards d'années.
Mais c'est quasiment des rescapés de l'activité de la Terre, hein, parce qu'avec l'érosion, les tremblements de terre, la tectonique des plaques, etc., c'est très rare de trouver des roches anciennes.
C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, et que c'est qu'à certains endroits sur les continents qu'on les trouve, puisqu'ils ont été, comme vous dites, érodés ou réenfouis dans le manteau profond.
Mais ça, c'est alors si je peux me permettre, ce sont des adresses, des bons coins pour trouver des vieux sédiments qui sont quasiment secrets, parce que j'imagine que ce sont quasiment des trésors et des mémoires de la Terre très, très précieuses, non ?
Oui, oui, c'est des, bon, c'est pas des secrets en fait, hein, parce que ils font les cartes géologiques, elles sont ouais. accessibles, donc on peut.
On peut y aller quand même.
Voilà. Ouais. Mais après, il y a des accès qui sont très difficiles. Il y a des endroits qu'on n'a pas pu forcément échantillonner à cause de la végétation, par exemple. On ne voit pas la roche qui est à fleur. Donc, à ces endroits-là, on fait des suppositions sur les terrains qui sont en dessous. Ouais. Mais peut-être que plus tard, on en trouvera qui sont plus vieux.
Ouais. Donc, rien de 4 milliards d'années, hein, si je vous comprends bien.
Alors, des roches magmatiques, si, on a 4 milliards d'années, mais quand c'est même, plus vieux. Voilà. Roches ouais. sédimentaires, c'est 3,8 milliards d'années et 4 milliards d'années pour les roches ouais. magmatiques.
Bon, Manuel Pubelier, j'ai une question idiote pour commencer, mais il me faut absolument la réponse. Il y en a combien des continents sur Terre ? Il y en a 5, il y en a 6 ou il y en a 7 ?
Je dirais que si on ne sait pas, c'est justement parce que en fait, ça dépend de la taille des continents.
Oui.
Les continents, enfin, les plaques continentales sont des plaques qui ont une très grande largeur. On connaît bien, par exemple, la plaque Amérique du Nord ou la plaque Amérique du Sud ou la plaque Afrique. Ce sont des plaques qui contiennent une croûte et une partie du manteau, donc elles ont une épaisseur d'environ 50 à 100 km. Mais évidemment, il y a des toutes petites plaques aussi qui ont quelques centaines de kilomètres, qui sont plus que des plaques qui seraient plutôt des briques.
Oui.
Et donc, évidemment, tout dépend de la taille qu'on veut obtenir.
Mais vous ne me répondez pas.
Répondez pas.
Et ben non, on ne peut
5,
pas répondre.
6 ou 7, alors vous dites quoi?
Vous pourrez avoir cette grande plaque, mais ouais. vous allez avoir après des petites plaques. Il y en a beaucoup en Indonésie, par exemple, il y ouais. en a en Nouvelle-Guinée, qui bougent par rapport au continent et entre elles, et qui créent des chaînes de montagnes lorsqu'elles bougent l'une par l'autre.
Mais là, si on prend en compte les petites plaques, j'imagine qu'on est bien au-delà de 7. Donc, ça explose complètement le
vous
chiffre.
Vous êtes en train de nous embrouiller encore plus, c'est une catastrophe. On va se retrouver avec 53 continents, on va plus savoir quoi faire.
Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre? Si on fait une interrogation écrite à un élève, par exemple, et qu'on lui pose la question « combien il y a de continents ?» et qu'il répond 5, il a raison, 7, il a tort.
On pourrait dire qu'il a 7 grandes plaques.
7 grandes plaques. Oui. Donc, il y a 7 continents.
On peut... Non, parce qu'en fait, ce sont des plaques, ce ne sont pas des continents.
Eh bien oui, mais j'insiste, combien il y a de continents alors ?
Les plaques contiennent une croûte continentale qui est épaisse, mais contiennent également de la croûte océanique qui est ouais. plus mince et plus dense.
Bon, Marion oui, Garçon, voilà. aidez-nous quand même à cette question
fait,
simple.
Je pense que le problème, il vient du fait que...
Pourquoi on a du mal à y répondre ?
Les continents, c'est une vision très géographique, c'est ce qu'on voit sur une carte. Nous, en géologie, on voit pas ça, la définition géologique d'un continent, c'est très difficile de la donner. En fait, on pourrait dire que c'est au premier ordre la partie émergée de la croûte continentale. Voilà. Donc sous les continents, on a de la croûte continentale et globalement, dans le fond des océans, on a de la croûte océanique.
Mmh.
On pourrait résumer ça comme ça. Mais d'un point de vue géologique, en fait, le nombre de continents n'a pas de sens. Parce que ça correspond
donc
pas.
Donc je vous ai vraiment posé une question idiote alors, c'est
non,
ça
Non, d'un point de vue géographique, c'est très intéressant parce qu'on regarde la carte du monde, évidemment,
oui,
qu'on voit
ça,
des surfaces
ouais.
émerger, on appelle ça des continents. Mais c'est très géographique. En fait, géologiquement, en dessous, c'est plus complexe.
Manuel Pubelier n'a pas dit son dernier mot.
Mmh. Oui, alors en plus, même en ce qui concerne les très grandes plaques, par exemple la plaque indo-australienne qui inclut le continent tel qu'on connaît australien et l'Inde, cette plaque s'est en fait scindée en deux il y a environ 9 millions d'années et on n'a plus une seule plaque indo-australienne mais deux plaques qui ont une cinématique assez proche
ouais.
Qui sont maintenant considérées comme différentes.
Et alors, il y a quoi dans ces continents ? Alors, enfin, ces continents, c'est quoi la matière finalement ? C'est composé de quoi ?
C'est des roches quand même au départ, ouais. et c'est des roches qui sont plutôt riches en silice. Donc la silice et atomes de silicium et oxygène, ce sont les deux éléments les plus riches dans les roches de la croûte terrestre.
Ouais.
Et donc ces continents, ils sont principalement faits de roches riches en silice, en opposition à la croûte océanique, donc qui se trouve dans le fond des océans, qui elle est plutôt pauvre en silice.
Et le silice, c'est justement tout ce qui fait l'intérêt pour vous hein, de vos travaux ?
C'est l'une des caractéristiques chimiques qui permettent de différencier ces deux types de croûtes, océanique et continentale. Donc c'est important de comprendre comment est-ce que ça a évolué au cours du temps.
Ouais. Si vous aussi vous souhaitez avoir des réponses claires à cette question des continents, eh bien n'hésitez pas, c'est le bon endroit, franceinter.fr, pour nous retrouver cet après-midi.
Chaque jour, il faut s'y faire. Elle revient toujours, la colère. Chaque jour, elle nous effleure. Je crois qu'elle vient de l'intérieur. Chaque jour, sur un bout de terre, elle revient toujours, la colère. Chaque jour, elle nous effleure. Je crois qu'elle vient de la douleur. Chaque jour depuis des millénaires, elle revient toujours la colère. Chaque jour depuis des millénaires, elle revient toujours la colère. Chaque jour sur un bras de mer, elle revient toujours la colère. Chaque nuit comme en plein cœur, je crois qu'elle vient de la douleur. Chaque jour même les plus ordinaires, elle revient toujours la colère. Chaque jour elle nous effleure, je crois qu'elle prend de la hauteur. Chaque jour depuis des millénaires, elle revient toujours la colère. Chaque jour depuis des millénaires, elle revient toujours la colère. À croire qu'elles sont plusieurs, nous grignoter le cœur.
La colère, c'était la voix de Gaëtan Roussel sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Les délimitations entre les plaques tectoniques sont bien souvent invisibles à l'œil nu, cachées sous les océans. Mais grâce aux satellites et aux sonars, nous connaissons désormais leur emplacement et leurs dimensions. En vidant les océans, nous découvrons une longue dorsale où la Terre se déchire et donne naissance à certaines des montagnes les plus hautes de la planète. Les plaques entrent en collision, s'éloignent et glissent les unes contre les autres. Le magma jaillit afin de combler le vide, formant ainsi une nouvelle croûte. Ce suintement sous-marin est à l'origine de ce que l'on appelle des pylo-lava, ou de la lave en coussin. Ce phénomène est observé lorsque la lave brûlante durcit quasi instantanément au contact de l'eau glacée. Le coussin s'allonge au fur et à mesure que la lave jaillit. Certains coussins éclatent lorsque la pression devient trop forte. Les cheminées fumantes qui jalonnent la dorsale sont tout aussi spectaculaires.
Excellent documentaire du National Geographic sur la tectonique des plaques pour parler donc des continents cet après-midi avec nos invités Marion Garçon, géochimiste, Emmanuel Pubelier, donc le président de la commission de la carte géologique du monde, avec déjà des questions, Camille.
Oui, justement, sur l'application France Inter, question sur la tectonique des plaques. Florent, on voudrait savoir jusqu'à quand on pense que la tectonique fonctionnera sur Terre, Manuel Pellebier.
Ah ben, en fait, la tectonique des plaques fonctionne depuis que les plaques sont suffisamment rigides pour pouvoir se déplacer et créer des frottements les unes par rapport aux autres. Chaque fois qu'une plaque s'écarte, comme on vient de l'entendre, on fabrique de la croûte océanique de façon à combler le vide. Mais évidemment, comme la Terre garde le même volume, elle ne grossit pas, il faut qu'il y ait d'autres endroits dans lesquels les plaques passent l'une sur l'autre, et c'est généralement la croûte océanique, plus lourde et plus dense, qui passe sous la croûte continentale. Ce système-là va continuer à fonctionner pendant très longtemps, puisque en fait, il n'y a pas de raison de l'arrêter, sauf quand, évidemment, les continents deviendront trop épais, trop froids,
ouais,
et qu'à ce moment-là, on aura des difficultés pour les faire passer les uns sous les autres, principalement.
Ouais. Mais Marion Garçon, c'est quoi le moteur, finalement, de tout ça? Parce qu'on l'entendait aussi dans l'extrait, c'est quelque chose d'extrêmement vivant, hein, c'est un organisme vivant, quasiment, cet ensemble complexe. Mais qu'est-ce qui est à l'origine, finalement, de cette activité-là?
De la tectonique des plaques?
Oui.
Alors en fait, tout ça c'est lié un peu à l'activité mantellique. Le manteau, il est animé de mouvements, en fait il convecte par des grandes cellules de convection. Et donc on prend souvent l'image du tapis roulant, en fait les plaques tectoniques à la surface, elles sont un peu emmenées par ces convections du manteau. Et puis au niveau des subductions, là où Manuel disait on a des plaques qui subduquent sous les continents, à cet endroit-là on a aussi un effet de traction des plaques, donc qui font aussi bouger et s'écarter les plaques au niveau des rides médio-océaniques.
Oui, Manuel Pubillier.
C'est donc effectivement un aspect thermique au départ, surtout dans anciennes périodes de la Terre. Et puis, il y a effectivement, plus récemment, pendant que la tectonique des plaques fonctionne, un effet de gravité, c'est-à-dire le poids des plaques dans les zones de subduction.
Sur l'application France Inter, toujours Benjamin voudrait savoir si la tectonique des plaques s'exerce sur d'autres planètes, Marion Garçon.
Eh bien ça, on ne sait pas trop.
On en parlera en tête tout à l'heure justement.
Ouais. On n'a pas vraiment d'évidence pour dire que la tectonique des plaques existait sur d'autres planètes, même si ça a parfois été suggéré. En fait, ça va même plus loin. En fait, on pense même que les continents, donc les roches qui forment les continents, la croûte continentale, très riche en silice, n'existaient pas sur les autres planètes, ou en tout cas, on n'a pas beaucoup d'évidence. Peut-être sur Mars, mais c'est encore pas vraiment...
Mais alors justement, est-ce que ce serait une des conditions sine qua non à l'apparition de la vie, la tectonique des plaques? Qui veut répondre là-dessus, Manuel Pubillier?
Oui, alors effectivement, en fait, on peut prendre l'image finalement du laboureur qui retourne la Terre. S'il ne le fait pas, la Terre s'appauvrit. Il faut faire remonter des nutriments des parties les plus enfouies. S'il n'y avait pas de tectonique des plaques, on aurait finalement des pénéplaines un peu partout sur les océans. Oui. Il n'y aurait donc pas de circulation d'eau, il y aurait de l'eau stagnante, et ça changerait la météorologie, la vie serait pratiquement impossible.
Donc on n'aurait pas de montagne par exemple, on n'aurait pas de chaîne de montagne du tout. Hein.
Donc ouais. On n'aurait pas de chaîne
de montagne.
Il n'y
aurait pas de relief, c'est ce que vous disiez.
Il
n'y
aurait pas de relief, et d'ailleurs, on ne sait pas exactement, mais dans les premiers stades de formation des continents, il n'y avait sans doute pas beaucoup de relief. Et actuellement, il nous faut des montagnes pour arrêter les nuages, pour que les rivières naissent et s'écoulent et se répandent sur l'ensemble des continents, pour favoriser la vie.
Donc voilà, l'activité biologique, elle est liée directement à cette tectonique. Alors il y a un nom incontournable justement lorsque l'on parle de la science des continents, c'est celui d'Alfred Wegener avec sa théorie de la dérive des continents. Le géologue Nicolas Koltis parlait de cet illustre scientifique allemand en 2012, on va l'écouter lors d'une conférence à l'université Claude Bernard de Lyon.
Alors Alfred Wegener, c'était un explorateur et un scientifique. C'était un explorateur d'un grand courage, parce qu'en fait, dans sa jeunesse, il avait un peu plus de 20 ans, il était déjà docteur en astronomie. Et en fait, avec son frère, ils ont battu un record de vol en montgolfière de plus de 50 heures. Ensuite, il est parti au Groenland dans des expéditions pour travailler sur le climat. Donc des choses qui sont à la fois des vraies aventures humaines en même temps que des aventures scientifiques. Et au cours de tous ces travaux qui l'ont amené à être quand même une personne très reconnue dans l'académie allemande notamment, eh bien en 1912, c'est la première fois qu'il propose une idée que les continents auraient... Il parlait de translation des continents. Et donc début 1910, il a commencé à penser à ça. Et en très peu de temps, il a essayé de mettre au point une théorie sur laquelle il va travailler finalement un petit peu jusqu'à sa mort en 1930. Il avait alors tout juste 50 ans et il est mort dans le cours d'une expédition dans le Groenland qui a été un petit peu difficile pour l'équipe où certains y sont restés.
Alors Manuel Pubillier, justement, qu'est-ce qu'il découvre exactement par rapport à cette période de 1912 là?
Alors Wegener, il constate, c'était des idées qui étaient déjà un petit peu dans l'air, mais il constate que on peut emboîter par exemple l'Amérique du Sud avec l'Afrique et que la coïncidence est assez proche.
Ouais.
Elle est encore plus proche si, quand on le disait tout à l'heure, on considère la croûte continentale et la croûte océanique, c'est-à-dire quand on rapproche les deux croûtes continentales, c'est encore plus précis. Et donc, il fallait que on écarte ces deux continent, mais en fait, c'est deux plaques, pour arriver à produire l'état actuel.
Mais personne n'avait jamais justement eu l'idée de rassembler comme ça les continents et de comprendre qu'il y avait eu ce mouvement.
Ben, c'était trop grave, parce qu'il fallait connaître évidemment le mécanisme, sinon on passait forcément pour quelqu'un de fou.
Ouais.
Et donc on a pensé au début que peut-être la partie qui est actuellement dans les océans s'était écroulée. Il y a eu différentes hypothèses, mais on n'arrivait pas, on ne connaissait pas le mécanisme.
Ouais.
Une fois qu'on a compris le mécanisme, en particulier à partir de la connaissance des océans, de leur bathymétrie, c'est-à-dire de leur profondeur, de leur topographie sous-marine, à ce moment-là, on a compris que c'était possible et la science est allée très vite à partir de là.
C'est ça, il a joué un rôle fondamental, hein. C'est vraiment un des grands noms qu'il faut retenir et 1915, c'est vraiment une nouvelle page qui s'ouvre sur la connaissance de cette science, hein.
Bien sûr, mais toutes les étapes sont importantes.
Ouais. Marion Garçon, est-ce qu'étudier les océans, c'est important justement dans le cadre de vos activités aussi, quand on s'intéresse au continent ?
Oui, oui, c'est aussi important de regarder ce que l'eau de mer ou les océans ont pu enregistrer. Nous, c'est ce qu'on fait en utilisant en fait un moyen un peu indirect, les sédiments qui précipitent à partir de l'eau de mer. Voilà, c'est un projet qu'on fait actuellement où on va regarder ces sédiments, qu'est-ce qu'ils ont enregistré sur la nature des continents, les conditions d'oxygénation dans les océans et dans l'atmosphère au moment de leur déposition, et puis l'hydrothermalisme par exemple.
Ouais, donc ça aussi, ça permet d'enrichir la connaissance évidemment au fil des travaux. En septembre dernier, je le disais, vous avez publié donc cette étude qui propose elle aussi finalement une nouvelle histoire sur la formation des continents. Eh bien, on la commentera dans la deuxième partie de cette émission avec d'autres questions pour vous de la part des auditeurs de La Terre au Carré.
France Inter. La Terre au Carré.
Et 14h30, Camille passe au vert.
Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais plus ça va, plus on entend parler d'inventions, de techniques, de technologies pour, par exemple, capter ou stocker le CO2, hein, ce gaz à effet de serre hautement responsable du réchauffement climatique, je le rappelle, émis majoritairement et en beaucoup trop grande quantité par nos activités humaines, n'en déplaise aux 45% d'Américains qui ne croient toujours pas, d'après un sondage paru ce matin pour Vice News et Le Guardian, que ce soit nos transports, notre agriculture ou nos industries derrière. Voilà, voilà. Donc des inventions de partout. Hein. Je vais vous parler d'une en particulier aujourd'hui puisqu'elle vient d'être distinguée par un programme financé par Bill Gates. C'est pas rien, le Breakthrough Energy Fellows, qui aident avec quelques millions de dollars des startups à développer leur technologie. 9 lauréats, dont une jeune entreprise française, la seule européenne dans le lot d'ailleurs, Dioxycle, fondée par la Basque Sarah Lamaison, elle a 27 ans.
Moi, je développe des technologies pour convertir le CO2 en des carburants et des produits chimiques.
Voilà, ça c'est le résumé, hein. Une sorte d'économie circulaire. Donc on récupère le CO2 à la source dans les industries, qui représentent un tiers des émissions de gaz à effet de serre, pour donc le convertir, le transformer sur site en le valorisant.
L'idée est de considérer ce CO2 comme une ressource plutôt qu'un déchet. Pour se représenter un peu ce que c'est, il faut se souvenir de ce qui se passe quand on met du carburant dans une voiture. Le carburant, ce sont des longues chaînes de carbone liées entre eux. Et quand on le met dans un moteur, ce qui va se passer, il va y avoir une étincelle. C'est les liaisons entre les carbones vont être cassées, ce qui permet de libérer l'énergie et donc de faire avancer la voiture. Et il va y avoir un déchet de réaction qui va être aussi libéré, qui est les carbones individuels sous forme de CO2, donc le dioxyde de carbone. Voilà. Et donc moi, j'essaie d'inverser ce procédé en reprenant ces petites molécules de dioxyde de carbone et en recréant des liaisons entre les carbones pour refaire des carburants et des produits chimiques grâce à de l'électricité.
Via l'électrolyse, hein, dans des stacks, ce sont des sortes de petites valises pleines de cellules empilées, des couches où non pas la magie mais la chimie va se produire. Et elle sait de quoi elle parle puisque Sarah Lamaison est polytechnicienne, passée ensuite pour ses recherches par Cambridge, le Collège de France et Stanford. Ça rigole pas.
J'aurais pu aller faire des postes plus prestigieux, comme du conseil en stratégie et des choses comme ça. Et j'ai préféré choisir la recherche.
Beaucoup moins fun, cela dit, apparemment.
Les journées ne sont pas très marrantes. globalement, c'est beaucoup de travail sur paillasse, en laboratoire, beaucoup de... Enfin, voilà, le monde de la recherche, c'est quand même un monde assez austère. Que j'aime bien, hein, parce qu'on est dans le vrai, de la physique des choses. Mais mon goût vient vraiment de la mission, développer des technologies pour décarboner l'industrie, pour vraiment contribuer à lutter contre le réchauffement climatique.
Mais alors on y est, question posée par beaucoup, un débat même. Toutes ces technologies sont-elles la solution ou de simples rustines qui ne font que finalement repousser le problème, hein, sans le régler? Alors j'ai demandé à Hervé Bersegol, physicien au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
Tout ce qui est la géoingénierie des solutions pensées pour continuer à polluer avec le CO2, mais corriger ses effets, stocker en très grande quantité le CO2 sous terre, ou à la place d'arrêter d'envoyer du CO2 dans l'atmosphère, bloquer le rayonnement solaire pour éviter le réchauffement, c'est complètement idiot. C'est votre baignoire est en train de déborder, et au lieu de fermer le robinet, vous essayez d'écoper pour mettre l'eau ailleurs.
Mais là, Hervé Bercegol parle donc des soi-disant solutions, on va dire, plus globales. Le chercheur est moins virulent sur celle de Sarah Lamaison.
Ça peut être utile maintenant pour aider des pans industriels difficiles à décarboner à utiliser les émissions de CO2, mais on ne supprime pas les émissions, on les convertit en quelque chose d'utile. Si cette molécule utile est une molécule énergétique, ça sera émis de toute façon à la fin. Donc c'est sans doute un point important, mais le plus important, c'est clairement de trouver d'autres façons de produire de l'énergie que de brûler des combustibles fossiles.
Alors ça, la start-upeuse ne le nie pas, mais ajoute...
Cette technologie, elle a particulièrement sa place là où on a vraiment besoin de composés carbonés. Typiquement, pour produire un médicament, on a besoin de faire de la chimie organique. Et la chimie organique, organique, ça veut dire à base de carbone. Donc pour ça, on a besoin de carbone, on ne pourra jamais le remplacer.
Le concept pré-industriel est en développement avec un premier test sur site au printemps prochain, elle l'espère. D'ici là, l'entreprise embauche, et oui, merci Bill Gates.
Oui, on cherche 10 personnes, effectivement, avec des profils à la fois techniques, mais aussi business, et aussi d'ailleurs une assistante de direction dans l'immédiat absolu. Je ne sais pas si je peux mentionner ça là, mais on ne sait jamais.
Et ben voilà, c'est basé à Bordeaux, et donc ça s'appelle Dioxycle, un des exemples de ces entreprises qui émergent et qui devraient visiblement compter, mais font surtout débat et donc réfléchir avant de résoudre le complexe enjeu du réchauffement climatique. L'ONU prévient encore aujourd'hui, dans un rapport publié aujourd'hui, que cette année, il devrait y avoir plus 4,8% d'émissions de gaz à effet de serre.
Et c'est Camille Passauvert que vous pouvez bien sûr écouter sur la page de l'émission.
Marion Garçon, c'est austère, alors la recherche, comme elle dit.
On a tous noté votre réaction, hein. Vous avez levé les yeux au ciel.
C'est ça, ben non, mais moi je trouve pas du tout que c'est austère. Au contraire, nous on a un côté où on va sur le terrain, on fait de la chimie aussi sur paillasse en laboratoire, on mesure. Donc non, je trouve pas que c'est austère.
Ouais. Emmanuel Pubelier, par rapport à la solution en elle-même, hein, qui encore une fois est un exemple, mais là en l'occurrence de recycler quelque part le dioxyde de carbone en ressource.
Ben en fait, les sédiments effectivement permettent de piéger du carbone et se déposent principalement dans les océans. Mais comme ils vont disparaître dans les zones de subduction, on a finalement un cycle. Et le seul moyen de facile peut-être à notre portée de capter le CO2, ça serait effectivement de développer des récifs artificiels qui permettraient eux de fabriquer des carbonates et donc de piéger du CO2.
Oui, c'est ça, c'est vraiment le piégeage, hein, c'est ça.
C'est un piégeage qui serait plus.
Mais normalement, les océans, ils jouent ce rôle-là naturellement, si je puis dire, hein.
Naturellement, effectivement.
Et pouvoir piéger le CO2.
Effectivement. Oui.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre la discussion autour des continents dans la Terre au carré.
When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Call me again, drunk in your Benz, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you. I don't relate to you, no, 'cause I never treat me this shitty.
Cause that's just embarrassing. You are my everything and all that you.
on a tout mis dans la guitare électrique cet après-midi. Happier Than Ever, c'était Billie Eilish.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Nous sommes avec Marion Garçon et Emmanuel Publier pour parler des continents. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en septembre, justement, Marion Garçon, vous avez publié une étude qui propose au fond une nouvelle histoire, ou en tout cas le prolongement d'une nouvelle histoire sur les continents. C'est un travail d'abord qui est basé sur la compilation de la littérature scientifique, hein, c'est ça ? C'est comme ça que vous avez procédé ?
Voilà, c'est ça. Donc j'ai utilisé des données qui étaient déjà publiées dans des articles scientifiques depuis les années 80. J'ai compilé tout ça. En fait, c'est des compositions chimiques de sédiments qui se sont déposés à différents temps de l'histoire de la Terre. Et ces sédiments, en fait, c'est typiquement le sable qu'on trouve sur les plages ou le limon ou l'argile dans le fond des rivières. Et donc, en fait, ces sédiments, c'est les débris d'érosion, les produits d'érosion des roches qui constituent la croûte continentale, donc les continents. Et donc, quand on regarde la composition chimique de ces sédiments-là, en gros, on peut revenir à la composition des continents et les mécanismes de formation des roches qui forment ces continents.
Ah, mais vous, vous posiez quelles questions, finalement, en allant compiler toute cette littérature ? Vous vouliez avoir quelle réponse ?
Eh bien, la réponse, c'était... Quelle est la nature de la croûte continentale, okay, la composition de la croûte continentale au cours du temps, est-ce qu'elle a changé ou non, telle qu'elle est échantillonnée par les sédiments? Et à partir de cette question, on peut essayer d'aborder d'autres questions qui sont comment est-ce qu'on forme ces roches? On connaît leur composition chimique, on peut essayer de comprendre les mécanismes de formation de ces roches.
Et ça, c'est des questions auxquelles on n'avait pas de réponse jusqu'à maintenant, où il y avait des hypothèses qui suscitaient des controverses dans votre milieu?
Non, donc il y a plein d'études qui ont essayé de contraindre ces choses-là, donc, mais il y a beaucoup de controverses, notamment sur la composition de la croûte continentale au cours du temps. Donc en fait, il y avait pas mal d'études qui montraient qu'on avait un grand changement de composition de la croûte, donc très pauvre en silice au début de l'histoire de la Terre, jusqu'à 2,5-3 milliards d'années. Et puis ensuite, cette composition aurait changé, elle serait devenue plus riche en silice, globalement similaire à ce qu'on a aujourd'hui.
Ouais. Et pourquoi ?
Alors ça, c'était aussi basé sur des archives sédimentaires, sur différents proxys chimiques en fait, qu'on peut retrouver.
C'est quoi un proxy ?
Un proxy, c'est simplement une composition chimique qui permet de déduire la composition de la croûte. Donc on avait des études qui montraient ça, que la composition avait changé. Et là, en fait, cette archive sédimentaire que moi j'ai étudiée...
Montre le contraire.
Montre qu'en fait, il n'y a pas de changement majeur. Moi, ce que je vois, c'est une composition, notamment en silice, très stable depuis au moins 3,8 milliards d'années. Ouais. En fait, depuis tous les sédiments échantillonnent globalement une croûte continentale qui a la même composition en silice.
Donc vous le disiez, le silice est vraiment un élément chimique qui est très abondant dans les roches sur Terre.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est quoi, c'est un marqueur finalement pour une scientifique comme vous ?
Eh ben, en fait, c'est aussi un marqueur de processus parce que la croûte océanique, elle est relativement pauvre en silice. Donc on dit en gros 50% poids, ça veut dire que la moitié de sa composition, c'est de la silice. Alors que la croûte continentale, du moins sa partie supérieure, elle est un peu plus hétérogène, mais sa partie supérieure, c'est plutôt de l'ordre de 65%. Et donc ça, c'est directement relié au mécanisme de formation de la croûte océanique et de la croûte continentale. Donc c'est des paramètres qui sont importants, c'est pas les seuls, mais... Ce sont des paramètres importants.
René sur franceinter.fr, Manuel Publier, nous demande si vous pouvez préciser le nombre de plaques tectoniques sous le Japon et s'il est possible que l'île du Japon se rapproche de la Chine.
Alors en fait, les îles du Japon ont tendance à s'écarter.
Oui, bien sûr, les îles, oui.
Ont tendance à s'écarter de la Chine, en fait, puisque le Japon, comme vous le savez, se situe au-dessus d'une zone de subduction. Donc la plaque Pacifique et la plaque Nankai passent sous le Japon et, ce faisant, tirent sur les îles du Japon qui ont tendance plutôt à s'écarter un petit peu de la Chine.
Donc, ils ne sont pas prêts de venir se réunir, c'est ce que vous nous dites.
Hein. Exactement.
Ouais. Ce processus, pour se rendre compte, hein, sur les échelles géologiques, hein, ça représente quoi en termes de vitesse ? Je ne sais pas si le mot est exact, ou de dynamique exactement, sur le déplacement de ces continents ?
Alors, en fait, on sait maintenant mesurer les déplacements sur des failles ou bien entre des continents grâce à la géodésie spatiale, donc ouais, au GPS, et on arrive à une précision qui est remarquable, de l'ordre de quelques millimètres par an pour le déplacement des plaques. Donc évidemment, quand les plaques se déplacent d'un millimètre par an, il faut attendre longtemps pour avoir des mesures significatives. Par contre, quand elles se déplacent à 10 cm par an, c'est-à-dire à 100 mm par an, là c'est très rapide.
C'est très rapide. Et qu'est-ce qui explique ces différences de vitesse ?
Justement, les plaques se déplacent en fonction de pôles de rotation, puisqu'on est sur une sphère, donc il y a des parties dans lesquelles les mouvements sont rapides, et des parties, quand on est près du pôle de rotation, qui sont beaucoup plus lentes.
Julien voudrait savoir sur l'application France Inter si l'étude de la tectonique des plaques pourrait nous aider à déterminer l'activité volcanique à venir pour la planète. Qui peut répondre, Manuel Pubelier ou Marion Garçon ?
Allez, Manuel Pubelier.
En fait, toutes ces histoires de prédiction sont toujours des histoires d'échelle, encore une fois. On est capable, en fait, à l'échelle du géologue, de prédire extrêmement précisément les tremblements de terre ou l'activité volcanique. Ouais. Simplement, c'est-à-dire qu'on est capable de dire si les prochains grands tremblements de terre aura lieu dans les 100 prochaines années et à tel endroit, à 50 km près.
Mais à l'échelle humaine, c'est
extrêmement précis à l'échelle géologique.
Mais pas à l'échelle humaine.
Voilà, à l'échelle sociétale, c'est pas du tout suffisant.
Ouais. Donc, on peut pas réussir à...
Guan, par exemple, on ne peut pas vraiment déterminer ?
Alors justement, avec le GPS, on est capable de voir comment s'accumulent les tensions à l'intérieur des plaques et aux limites des plaques. Mais où est le seuil de rupture, c'est difficile à dire.
Ouais. Marion Garçon, dans votre étude, finalement, c'est quoi vos grandes découvertes ? Donc, il y a la composition donc, en silice, hein, que vous voyez de façon très uniforme, finalement, pendant toute l'histoire des continents. Mais il y a d'autres choses que vous avez découvertes aussi, hein.
Oui, alors après, c'est plutôt sur les mécanismes de formation de la croûte. En fait, cette étude, elle montre que la formation de la croûte continentale serait plutôt épisodique. Ça veut dire qu'il y a des moments dans l'histoire de la Terre où on a formé beaucoup de croûte continentale, qu'on a une forte croissance crustale, et puis d'autres où c'était beaucoup plus lent, on ne formait pas grand-chose. Et donc, en fait, c'est un peu une sorte de cyclicité.
Et ça, on ne peut pas l'expliquer.
Alors, on peut essayer d'invoquer des mécanismes pour l'expliquer, notamment les cycles des supercontinents. Donc, en fait, au cours de l'histoire de la Terre, les continents, ils se sont assemblés et démantelés plusieurs fois.
Ouais.
Donc, le dernier qu'on connaît très bien, c'est la Pangée. Mais en fait, ça s'est reproduit plusieurs fois dans l'histoire de la Terre. On ne sait pas exactement combien de fois, 5-6 fois peut-être, donc assemblage, démantèlement.
C'est ce qu'expliquait Arun Tadiev tout à l'heure. Hein. C'était il y a 200 et quelques millions d'années, hein. C'est
voilà.
Ça, la Pangée,
oui,
où il y avait un seul grand continent.
Voilà. Hein. Mais en fait, c'est un processus qui existe tout le temps. Les continents s'assemblent, puis s'éloignent, puis s'assemblent, puis se rééloignent. Et donc, on peut imaginer que pendant les périodes d'assemblage, où on a donc plus de zones de convergence, collision, subduction, c'est là où on forme globalement les roches riches en silice et donc la croûte continentale, on peut imaginer que pendant ces grandes périodes de convergence, c'est les moments où on a une forte croissance crustale, donc ces pics de production de croûte continentale que moi je vois dans l'enregistrement sédimentaire.
Crustale, pardon, mais ça veut dire quoi encore ?
Il y a plein de mots. Lié à la croûte. Voilà, ouais. Crustal, c'est vraiment la croûte.
Et alors, justement, ce cycle dont vous parlez, il est régulier, il est irrégulier. Est-ce qu'on peut l'anticiper, le prévoir ?
Alors, plus on va loin dans l'histoire de la Terre, moins on a de contraintes fortes au niveau temporel. Mais globalement, moi, ce que je mets en évidence, c'est des cycles donc, de croissance crustale ou continentale, de l'ordre de 500-700 millions d'années. Et c'est globalement le cycle qu'on observe pour l'assemblage et le démantèlement des continents.
Oui, donc il y a quelque chose d'assez régulier, finalement.
Voilà. Oui, ouais. Oui, c'est un processus qui se reproduit depuis que la tectonique des plaques existe.
Ouais. Camille, d'autres questions des auditeurs ?
Toujours René, hein, il est à fond sur les plaques tectoniques.
Ouais.
Il voudrait savoir, Manuel Pubelier, la France ou l'Europe appartiennent à quelle plaque tectonique ? Alors, d'ailleurs, il dit la France ou l'Europe, mais c'est pas du tout la même chose.
La France appartient à l'Eurasie, actuellement.
Mmh. Voilà.
Oui.
Ok.
Et alors justement, est-ce qu'on peut imaginer avoir un super continent ? Alors, il y en aura forcément un, mais est-ce qu'on peut savoir quand exactement ? Quand tous les continents ne vont plus qu'en former qu'un seul ? À nouveau dans l'histoire.
En fait, il faut voir que quand les supercontinents s'éclatent, les blocs dérivent, et forcément, comme on est toujours une fois dans un espace clos, puisque la Terre reste avec le même volume, eh bien, il faut que ces plaques dérivent jusqu'à se retrouver à un autre endroit de la Terre. Donc, c'est ça qu'il faut attendre. Donc, actuellement, on est plutôt dans une phase sur l'Eurasie et entre l'Afrique et l'Asie, on est plus dans une phase de serrage. On ferme l'océan qui existait au milieu de la Pangée, qu'on appelait la Tétis, alors que de l'autre côté, l'Atlantique lui s'ouvre et repousse les deux Amériques loin de l'Afrique et de l'Europe. Il faudra attendre que ça passe de l'autre côté pour venir se coller.
Et ça pourrait se passer quand alors ?
Le temps qu'on fasse le tour de la Terre et qu'on absorbe tout le
Pacifique. Ça pourrait redemander 250 peut-être millions d'années, par exemple, ou pas? Ou ce serait plus rapide?
Non, en fait, il y a des géodynamiciens qui s'amusent à essayer de comprendre comment est-ce que les plaques s'agenceront dans plusieurs millions d'années. Et il y a des modèles, alors c'est pas forcément ce qui va se passer, mais en gros, on peut voir que, par exemple, il n'y aura plus la Méditerranée. En gros, la plaque africaine et l'Europe seront donc soudées. Et à la place de la Méditerranée, on aura probablement une chaîne de montagnes. Ça arrivera très probablement dans 50, 100 millions d'années.
Bon, on est capable de dire ça. C'est un peu tôt pour investir effectivement dans son petit chalet. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de notre discussion sur les continents. Hein ? Petit souvenir de l'affaire Louis Trio avec Chic Planète.
France Inter, la Terre au carré.
Nos invités Marion Garçon et Emmanuel Pubelier pour parler donc des continents cet après-midi. Marion Garçon, quand on publie comme vous une étude qui a été très remarquée en septembre dernier dans Science Advances, qui vient finalement, je le disais, rebattre un peu les cartes de cette science des continents, est-ce qu'on a l'impression d'apporter sa pierre à l'édifice justement de la connaissance? Et est-ce que ça fait grincer quelques dents auprès de vos confrères qui pensent pas du tout comme vous?
Alors pour l'instant, l'étude est assez récente, donc les retours, on attendra un petit peu de voir ce que les gens publient après. Mais en tout cas, oui, ça apporte des nouveaux éléments, des contraintes supplémentaires qui sont à intégrer dans les modèles pour essayer de comprendre comment est-ce que la croûte continentale s'est formée. Donc oui, on apporte à chaque fois des petites billes qui permettent soit de de contredire certains modèles, soit d'aller dans le sens de certains autres.
Et donc ça ressuscite aussi une dynamique sur le travail même des chercheurs qui peuvent emprunter d'autres types de recherches, c'est ça?
Oui, je pense, ouais, ça donne des axes voilà, à investiguer un peu plus que d'autres.
Ouais. Camille.
Vincent voudrait savoir, Manuel Pubelier sur franceinter.fr, si la tectonique des plaques a un effet sur le climat, notamment en faisant fluctuer le taux de CO2.
Alors effectivement, c'est une très bonne question. En fait, principalement, les chaînes de montagne, c'est-à-dire le résultat de la confrontation entre deux plaques tectoniques, constituent des barrières climatiques. Donc ça, c'est un des aspects les plus importants. Et d'autre part, si les climats, enfin du moins la pluie, contribuent à éroder les chaînes de montagne, c'est-à-dire contribuent à fabriquer des sédiments qui vont être après se déposer dans les océans ou dans les plaines continentales.
Marion Garçon, en quoi c'est important de savoir finalement toute cette histoire dont on parle depuis le début de l'émission, à savoir comment, quand, à quel moment se sont formés les continents?
Alors pour les sciences de la Terre, c'est très important qu'on comprenne les mécanismes qui forment les continents, parce que c'est des processus géologiques. Mais c'est aussi important, par exemple, pour comprendre comment la vie a évolué sur Terre, parce qu'aujourd'hui, tous les animaux terrestres qui marchent sur les continents, ils sont là parce que les continents sont émergés, sinon on n'aurait que des animaux marins, par exemple.
Oui.
Donc voilà, donc en fait, c'est tout plein de choses qui s'entremêlent. On a besoin de comprendre comment ça se forme pour savoir notamment comment la vie a évolué sur Terre et ouais. Comment est-ce qu'on forme des montagnes comment la tectonique des plaques fonctionne de manière générale.
Et alors des études comme celles dont on a parlé, ça vient aussi redessiner la carte de la Terre ou pas, Manuel Pubelier?
En fait oui, c'est très important parce que quand on fait ce genre d'études, on s'aperçoit que par exemple les chaînes de montagnes se forment plus ou moins toujours au même endroit. C'est-à-dire que quand une chaîne de montagne s'écroule, elle est remplacée par un océan qui s'ouvre, et quand l'océan se referme, il recrée une deuxième chaîne de montagne. Donc on observe une superposition des chaînes de montagne, et ça on le voit par la cartographie, et justement en individualisant les anciennes plaques.
Merci beaucoup à tous les deux pour cette petite histoire des continents cet après-midi dans La Terre au Carré.
Pure, que dit la nature?
Et pour terminer,
épisode 30.
2 minutes 30 de Pure Nature, le podcast et vodcast de France Télévisions. Découvrez l'endroit où nous sommes, ce que vous allez entendre, dans quelles conditions a été enregistrée cette séquence grâce à l'audio-naturaliste Fernand de Roussen. Voilà, avez-vous une idée sur cette ambiance sonore inédite d'immersion? Eh bien, pour avoir la réponse et pour aller jusqu'au bout de cette expérience sonore pure que dit la nature, podcast et vodcast à découvrir sur France.tv.
Je suis en train de chercher la réponse, mais je vous dirai
c'est
rien.
C'est en partenariat avec La Terre au Carré et le lien est disponible sur la page de l'émission.